1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus
claire? Good morning, Vietnam!
Are you drinking? No.
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je te laisserai ma tête.
C'est cool, ça va arriver, les voisins.
Vous écoutez bien les Décadrés sur PFM 99.9.
Radio libre et sans pub.
Donc, il y a Ange.
Oui, c'est moi.
Comment tu vas, Ange?
Bah, très bien, et vous?
Bah, très bien, Antoine.
Moi, je suis en pleine forme.
Bah, moi, j'ai pas envie que tu me présentes comme ça, en fait. J'ai envie que tu dises donnez-moi A, donnez-moi N, donnez-moi T, donnez-moi O, donnez-moi I, donnez-moi N, donnez-moi E, donnez-moi Antoine. Et moi, j'aurais
je sens qu'Antoine, il va être chiant aujourd'hui.
Enfin, j'aurais répondu oui. Ça
ah,
va.
Pourquoi, mais...
Donc vous êtes avec Ange, Antoine et moi-même, Benjamin, vous écoutez les Décadrés sur PFM 99.9.
Oui, pub.
Et aujourd'hui,
attention,
au programme de l'émission,
oui.
Ange va démarrer avec un film japonais, c'est bien japonais.
Tout à fait, c'est japonais.
Donc qui s'appelle Battle
Royale.
Yeah.
Battle Royale.
Yeah. Sans foirer mon entrée, c'est bien.
Ouais.
Alors sortez vos crayons et plantez-les dans la tête de votre voisin d'en face, le dernier d'entre vous gagne la partie. Il est temps de commencer la Battle Royale, comme vous venez d'entendre. Je m'impressionne, je crois que j'ai jamais fait une intro aussi peu recherchée. J'aime bien commencer comme ça, des petites...
Non,
ça laisse un peu de...
C'est le syndrome de la fausse bonne idée, en fait.
C'est ça. Mais tu te dis, t'as une mauvaise idée, au final, t'as envie de la lancer quand même.
Voilà, puis, c'est ça.
Ça marche ou ça marche pas. Et
souvent, ça ne marche pas.
Et vous avez ri, donc pour moi, ça a marché. Donc, vous l'aurez compris, comme je viens de vous le dire, j'ai vu Battle Royale réalisé par Kinji Fukasaku. Et je vais vous en parler. Donc, Battle Royale est l'adaptation d'un roman du même nom, écrit par Koshun Takami. Donc ça fait beaucoup de noms japonais, je vous préviens. Donc c'est donc vraiment un pur produit japonais, dans lequel un nouveau système a été mis en place contre l'absentéisme des élèves en cours et leur non-respect des adultes. Donc il s'agit de mettre une classe piochée au hasard sur une île déserte et de les faire s'entretuer pour qu'il n'en reste plus qu'un. Donc ils auraient pu appeler ça « Pétons-nous la gueule entre amis », mais non, ils ont préféré un truc beaucoup plus classe, Battle Royale. Donc premièrement, je ne voudrais pas de l'auteur du bouquin comme président. Première chose. Deuxièmement, ce film est tout simplement génial. Point. Voilà, j'ai fini. Non,
bah,
je
merci
gueule.
Merci,
Ange.
Du coup, on se retrouve
non,
la semaine prochaine sur les Décadrés, 99.9.
C'était une petite boutade. Non, je vais vous en dire plus. Je suis vraiment en forme niveau humour aujourd'hui. Alors, ce qui m'a d'abord plu dans ce film, et qui m'a fait beaucoup rire, je dois l'avouer, malgré l'ambiance tendue et pesante qui règne pendant tout le film, c'est la musique.
Donc,
quand tu entends ça, ce magnifique fond sonore dès l'intro du film, tu sens qu'il y aura de l'épique, du sang, de la violence et de l'action. Surtout quand le film s'ouvre sur la fin d'une bataille royale où l'on découvre avec les journalistes le gagnant qui n'est autre qu'une fille.
Est-ce qu'il y aura des tentacules?
Non, pas du tout.
Ah mince.
On n'est même pas dans ce type de japonais.
Ah mince. Bon,
donc,
bah, tant pis.
Je disais, le gagnant de la précédente battle royale qui n'adopte une fille qui sourit comme une psychopathe face à la caméra et qui fait tout bonnement flipper. Rien que ces premières minutes, ça donne envie de continuer le film. Et après, on passe à ça. Donc sur cette musique, on passe sur cette musique pour annoncer les morts de la journée. La bonne nouvelle du jour. Et j'adore ça, c'est tellement énorme de mettre une musique aussi posée, belle, pour annoncer quelque chose de si atroce. Alors certains médisants diront peut-être que c'est trop facile justement de faire une opposition entre les deux éléments, la musique et l'action.
On crée une distance.
Ouais. Ouais, voilà. Mais en même temps, ça marche. Ok, c'est facile, c'est lancé comme ça, c'est très simple.
Je trouve pas ça spécialement facile, personnellement.
Bah,
c'est une démarche. Hein.
C'est une démarche artistique.
Oui, mais en fait, c'est un effet qui est souvent vu,
oui,
en fait.
C'est
pour ça. Il y en a certains qui pourraient dire, ouais, bon,
oui,
bah, c'est
bon,
déjà vu, quoi.
C'est bon, hein.
Et pourtant, ça marche.
Faire du chant contre chant, c'est un effet déjà vu, tout le monde en fait. Hein,
oui, bah voilà. Bon. Mais ça marche du tonnerre. C'est ce qui rend l'ambiance de ce film tout à fait malsaine, en fait, dans Battle Royale. Dérangeante et si envoûtante à la fois.
C'est une manière de faire, Antoine, oui, le chant contre chant, un truc déjà vu. Bon, je sais pas si c'est un effet, mais.
Non, pas un effet, mais c'est une manière de faire. Mais
bien
pareil,
sûr, mais c'est
là
classique.
Aussi, c'est quelque chose classique, de classique. C'est pour dire aussi que Je veux bien qu'on cherche la petite bête, mais bon, c'est pas...
Non, puis ça marche.
Puis en plus, ouais, ah, c'est exactement ça, dans le pont du génial. Film, en plus, en fait. Hein.
C'est, ça te balance une ambiance vraiment... mais étrange, en fait. Tu bah, fais, mais comment...
On est très mal à l'aise, en fait.
Ah ouais Mais c'est surtout que c'est leur prof qui annonce les morts chaque jour, et qui est là, et qui lui, est pas heureux. Mais il dit ça avec une voix tellement... pas joyeuse non plus, excessivement joyeuse, mais...
C'est banal,
genre il leur
en fait.
Dit ben allez, prenez le temps de faire une trêve et mangez un petit casal, c'est midi, mais en attendant je vais vous annoncer les morts de la journée. Alors
ouais, c'est coup, en fait c'est en fait la violence elle est complètement banalisée,
ouais,
en fait,
c'est
par
ça.
Le professeur.
En même temps ça doit être ils disent pas précisément lequel combien ça fait de battle royale, mais il y a dû en avoir. Déjà il y a un des personnages il y a 3 ans il était déjà dans une battle royale, tu vois, il a rejoint l'équipe Enfin, il a été pris au hasard comme ça.
Ce que t'as pas dit aussi, c'est que toutes les familles sont mises au courant que leurs enfants sont envoyés à la Battle Royale.
Sauf la famille d'un des personnages principaux, vu que son père s'est suicidé juste avant la Battle Royale et sa mère est morte il y a quelques temps. Donc il a vraiment
chance,
une vie de merde. Hein. Et pourtant, quand on le voit, c'est pas non plus l'élève.
Non, mais tu sais, ça c'est quand t'as la vie qui vient te voir dans ton berceau et qui te dit toi là. Toi, je vais te faire chier, je vais pas te lâcher, tu vois. Jusqu'au bout, tu vas avoir du mal.
Mais ce qui est énorme, c'est que déjà, eux, ils sont envoyés là-bas, ils le savent pas, en fait. Ils partent pour un voyage de fin d'année.
C'est un voyage scolaire.
Voyage scolaire, le grand voyage scolaire, même ceux qui ont séché les cours y vont. Et donc, du coup, ils se retrouvent assommés par le chloroforme dans le bus. Et hop, ils sont balancés, ils se retrouvent dans une salle de classe totalement étrange. Leur prof arrive, en tue deux d'un coup, et voilà. Ça, déjà, ça commence bien. Tu vois ton prof qui te balance un couteau en pleine tête. Là, t'as envie de continuer de bosser avec lui. Bon, voilà. Au niveau de la réalisation, par contre, on retrouve grosso modo les bases d'un bon thriller. Rien non plus de très alarmant. Des plans longs et pesants dans lesquels on s'attend à ce que le personnage se fasse trucider. Ou alors très vif, où on ne s'attendait à rien. Ou même des moments, maintenant, c'est des effets qu'on connaît très bien. Et genre, si on attend 3 plombs, on sait qu'il va se passer quelque chose, qu'il va se faire buter. Mais on reste toujours dans la tension dans ce film. On a envie de savoir quand est-ce qu'ils vont crever. Parce que forcément, on sait qu'il n'en restera plus qu'un. C'est ça le but du film, quoi. Forcément, la plupart vont crever. Donc voilà. Je me suis perdu. Mais c'est pas sur cela, en fait. C'est pas sur vraiment la réalisation qu'il faut s'attarder le plus. Mais plutôt sur le jeu des acteurs. Tout le monde connaît la qualité des Japonais dans leurs films ou leurs animés d'être ultra expressifs sans être pour autant dans le surjeu. Cela vient sûrement de leur langue qui est, disons, très franche. Mais grâce à eux, on voit distinctement l'évolution des personnages, et même si c'est peut-être parfois un peu trop, eh bien cela fonctionne dans l'ambiance générale. Donc enfin attention, cela ne fonctionnera pas, je pense, uniquement... Oula, je me suis...
Allez, on va couper.
Ouais, je perds des lignes, il y a des moments... Donc enfin, attention, cela ne fonctionnera, je pense, uniquement si vous regardez le film en version originale. Donc sous-titré, bien sûr, à moins d'être bilingue. Mais comme ça, vous conservez toute l'intensité de leur jeu.
Cela dit, la VF est pas dégueulasse non plus. Hein.
J'ai pas regardé en VF, en fait.
La VF est pas vraie, elle est pas dégueulasse. Hein,
moi, tous les films en fait qui sont d'origine asiatique, ce sont les seuls que je regarde en fait en version originale, parce que je trouve que leur parler, c'est énorme, oui, à entendre, et j'arrive pas à mettre une voix française dessus,
oui,
même américaine. Tu vois, j'ai l'impression que si je mets une voix française sur leur voix, j'ai l'impression de regarder un film américain mais avec les voix espagnoles. Tu vois, c'est ce décalage où ça va trop vite, la voix espagnole,
ouais,
qui va trop vite par rapport à ce qui se passe sur la bouche. Enfin voilà, Battle Royale, un thriller superbe et plein de surprises parce que je ne l'avais jamais vu, que je vous conseille fortement. C'est un classique, oserais-je dire, et si vous l'avez déjà vu, regardez le deuxième, c'est ce que je vais m'empresser de faire au plus vite. Donc le deuxième a été réalisé par le fils du premier réalisateur, et si vous avez déjà vu les deux, rien ne vous empêche de les regarder à nouveau. Parce que je pense, vu la qualité du premier, le deuxième, je sais pas si vous l'avez vu.
Moi, oui.
Alors ?
Bah, je ne dirai rien.
D'accord.
C'est vrai que c'est moins bon, non ?
C'est moins bon ?
Bah, déjà... J'ai dit que j'allais rien dire. Mais okay, moi, personnellement, j'ai pas accroché au deuxième du tout. Hein. Mais c'est mon avis personnel.
D'accord.
Mais
c'est avec un groupe de terroristes, je crois. C'est ça ? Des gamins terroristes.
En fait, justement, en fait, je peux rien dire parce qu'en fait, éviter de spoiler le premier, du coup, je ne peux rien dire sur l'histoire par rapport au groupe de terroristes. Mais effectivement, il y a encore cette histoire d'école, sauf que là, en fait, les gamins sont envoyés faire la guerre.
D'accord.
Contre des terroristes.
D'accord, ok.
Mais ça a un lien avec le premier, en fait.
Donc, Ange. Okay. Est-ce que tu nous mets une petite musique ou pas?
Non, pas du tout.
Ok, alors on enchaîne. On enchaîne avec Antoine qui va nous parler d'un film d'épouvante horreur, il me semble.
Oui, oui.
Qui s'appelle, on peut dire d'épouvante horreur. Hein.
Oui, tu peux, oui, je pense.
Qui s'appelle VHS.
Ouais, VHS, donc. Que dire? Comme hier, comment vous le présentez, VHS? Alors, bon, je ne vous cacherai pas que la vue de certaines scènes m'ont empêché de dormir. Certaines m'ont même dérangé au point où je me suis levé de mon canapé pour éteindre mon lecteur, énervé et déconcerté par le spectacle qui m'était proposé. Mais bon, je me suis ravisé et j'ai tenu pour vous, chers auditeurs. Alors, donc, VHS, donc c'est un film d'horreur américain sorti en 2012 au format found footage. Alors, qui a fait cette voix autour de cette table et qui peut me dire ce qu'est un found footage ?
Ben et sa minute de... C'est comme... Ben, raconte-nous une histoire.
C'est un film qui est fait... Bon, c'est une fiction, mais qui fait penser comme si... qui fait croire qu'on a récupéré des vraies images d'archives. Donc, des images du visuel. On pense à Rec, on pense à Blair Witch.
Voilà. Trollhunter.
Trollhunter qui est super, d'ailleurs. Ouais. Il y a une série qui va arriver.
Ouais. C'est vrai ?
Ouais, oh. Apparemment.
Oh, faut que je...
Donc, voilà, comme tu disais, voilà. Aussi, autre fait, c'est aussi l'utilisation du point de vue subjectif de la caméra. On présente un film ou une partie du film comme étant un enregistrement authentique, un procédé intéressant et aussi qui se révèle peu onéreux, donc qui explique aussi pourquoi ça fonctionne. C'est un format qui fonctionne si bien avec les films d'horreur aujourd'hui. Bon, ne serait-ce que pour citer ce film
Paranormal Activity.
Paranormal Activity qui a énormément eu de sorties.
Activity,
Activity pardon, oui. Il y a eu énormément de films Paranormal Activity. Et voilà, on est toujours sur du fan footage à chaque fois. Bon, après, on va pas parler de la qualité du film, on n'est pas là pour ça. Alors, moi, je suis là pour vous parler de VHS. Alors. Le film est un film à sketch qui ont été écrits par pas moins de 9 scénaristes et mais aussi mis en scène par 9 réalisateurs. Donc autant dire que pour VHS, il y a du monde au balcon. Hein. Alors sinon, au niveau de l'histoire, rien de bien incroyable. Nous suivons une bande de jeunes cambrioleurs qui vont devoir récupérer une cassette dans une maison. Et lorsqu'ils arrivent dans la maison, ils découvrent un cadavre.
Oh,
oh là là,
sale.
Voilà, donc... L'occasion parfaite pour nos jeunes cambrioleurs pour retrouver la cassette, me direz-vous. Cependant, eh ben, il faudra trouver laquelle, parce qu'il y a énormément de cassettes qui sont mises à disposition sur le lieu où on trouve la victime. C'est donc du point de vue des cambrioleurs que nous allons découvrir ce que renferment les différentes cassettes vidéo. Nous découvrons alors plusieurs histoires différentes, avec pour point commun la mort et le sang. Alors, je vais cependant éviter de vous en dire trop sur les différents sketchs, afin de vous réserver la surprise, et aussi de vous laisser faire une idée sur le film. Mais il faut savoir que chaque sketch est plus ou moins différent, mais on reste autour des thèmes de l'horreur et de l'épouvante. Il y a des vampires, il y a du fantôme, il y a de la possession, il y a énormément de choses qui sont proposées. Du coup, c'est aussi à vous de voir ce qui pourrait retenir votre attention. Alors, cependant, même si je trouve la démarche intéressante, pour moi, le film souffre d'un manque cruel de fond et de forme, en fait. Il n'y a pas vraiment de trame à proprement parler. On se contente de suivre la caméra des cambrioleurs dans les différents sketchs. Et cela dit, malgré la gratuité des scènes gore et leur caractère proche du degré zéro de la subtilité, eh ben, on cesse de se poser des questions du style qui, comment, pourquoi. Et au final, eh ben, on n'a aucune réponse. L'histoire qui entoure les différents sketchs est facultative et rien ne nous explique le lien entre la trame et les différentes cassettes visionnées. À la réflexion, VHS ressemble plus aux légendes urbaines qu'on se raconterait au coin d'un feu dans les bois avec une bande de potes juste pour se faire peur. Alors, à l'exception du dernier sketch, qui selon moi mériterait une transposition en long métrage, l'ensemble du film s'essouffle assez rapidement malgré l'atmosphère angoissante, oppressante, lugubre, mais surtout très malsaine que celui-ci instaure depuis le début. De plus, l'utilisation du found footage a tendance en fait à foutre en l'air la visibilité de la mise en scène et aussi de certains effets spéciaux. Et je n'ai rien d'autre à rajouter sur ce film, parce qu'en fait, c'est assez creux, au final. Et c'est un peu à la star de cette chronique que je viens de vous pondre, c'est assez creux.
Tu as mis une musique ou pas ?
J'ai mis une musique, effectivement, c'est alors une petite musique bien sympathique.
Ça relève un peu le
niveau. Vu qu'on est sur du fan footage, je me suis dit, je vais prendre une bonne musique d'un film que j'ai beaucoup apprécié, Le Premier Rec, que j'ai, que j'ai énormément apprécié, avec la musique de fin.
Yeah.
Les Décadrés 99.9 sur PFM Radio. Voilà, merci Ange, radio libre et sans pub. Je suis désolé de vous avoir parlé avec si peu d'entrain de VHS, mais c'est pas grave, on va se rattraper parce que Benjamin va nous parler d'un film qui s'appelle Sicario.
Sicario, et ma chronique, je l'ai appelée Au cœur des ténèbres. Heart of Darkness. Alors, ça commence comme ça. Des ombres armées avancent vers une petite maison, accompagnées par des percussions de guerre, appuyées en plus par un son électro, et des cordes et des cuivres de plus en plus puissants. Un véhicule blindé noir progresse, puis accélère et traverse le mur d'entrée de la bâtisse, pour déployer ensuite d'autres ombres sortant de son ventre métallique. Ainsi commence Sicario, le nouveau film du Canadien Denis Villeneuve, ou plutôt le dernier film maintenant. Donc réalisateur d'Incendie, fait en 2010, Prisoners en 2013 et Ennemi en 2014. A l'instar de ses autres films, Sicario dévoile le mal latent, caché, imperceptible et pourtant bien présent dans nos vies, qui se plaît notamment à torturer et à nous enlever. Hein. Ici, ces révélations ont lieu dans le contexte des cartels de drogue mexicano-américains. Oui, c'est pas gay.
Bah oui.
Alors, si Trafic, donc sorti en 2001 de Steven Soderbergh, vous connaissez ? Ça vous dit quelque chose ?
Trafic ?
Oui.
Non, je ne l'ai pas vu.
Ou encore Cartel, sorti en 2013 de Ridley Scott, ont travaillé le même sujet. Ils exposaient des strates différentes du problème qui est très dense, très complexe. Le premier nous exposait ses quotidiens, donc un policier mexicain qui est confronté à la corruption, un officier américain de la brigade antidrogue, un politicien menant une campagne antidrogue et ayant une fille droguée, enfin la femme d'un personnage lié au trafic de drogue et qui vient de se faire arrêter. Le deuxième, de Ridley Scott, nous emmenait dans une strate plus profonde de la situation en faisant suivre la fin, bon, comprenez la mort pour la majorité, de personnages ayant voulu s'engager sérieusement dans le trafic de drogue, des personnages arrogants, aveugles et naïfs au point de croire que tout allait bien fonctionner. Les personnages voyaient leur sort mis à mal par des forces obscures presque invisibles et à la puissance paraissant infinie et inarrêtable. On peut notamment penser au collier de mort utilisé par les tueurs qui, une fois mis autour du cou et déclenché, il se resserre sur le cou et il ne s'arrête plus, il décapite l'individu. Et le film de Villeneuve nous emmène encore plus profondément. Ainsi, au début du film, on suit une escouade d'action anti-drogue du FBI dont l'incapacité à agir sur le cours des événements est explicitement exposée par ses propres dirigeants. On peut aussi penser à l'échec de l'opération qui ouvre le film, avec la découverte d'une trentaine de cadavres dans les murs et le piège explosif enclenché par des policiers alors tués par celui-ci. Kate Mercer, donc l'héroïne, accepte la proposition d'un groupe gouvernemental consistant donc à renverser la balance face au cartel et à enfin connaître des succès face aux crimes liés à la drogue. Jugée comme la meilleure de son unité, idéaliste, Mercer engage sa personne mais aussi la nôtre à un niveau abyssal du problème. Ainsi, les opérations s'enchaînent, les percussions sont de plus en plus déchaînées, les forces obscures se rencontrent et l'idéalisme manichéiste de la jeune femme est bouleversé. Bah oui, car dès qu'on s'engage dans ces voies obscures, notre sort appartient alors à des forces ténébreuses qui nous dépassent. Et l'on entre tel un mouton ou le petit chaperon rouge. Et là, c'est une idée intéressante que j'ai trouvée dans la critique de Jean-François Roger pour Le Monde. Donc on entre tel le petit chaperon rouge dans un monde de loups. Le personnage d'Alejandro, incarné par Benicio Del Toro, déjà présent dans Trafic en plus, c'est illustre à lui seul tous les propos du film, concernant donc le bien et le mal, et les différentes strates d'action. C'est un ancien procureur. Il devient une sorte d'ange de la mort en quête de vengeance, et il est aussi au service de clients et d'organismes, donc notamment l'organisme secret américain, donc d'organismes dont le seul intérêt est de retrouver un contrôle relatif du problème, notamment en ayant la mainmise dessus. Bah oui. Et si on entre dans ce monde en même temps que Mercer et son collègue, c'est surtout via Alejandro que nous allons être confrontés à toutes ces figures du mal. Et c'est étrangement grâce à lui que nous allons être épargnés et invités, non sans y être obligés, à nous éloigner de ce monde de loups. Et ça, ce sont ses propres mots, monde de loups.
D'accord.
Et il nous dit même, pour nous faire petits et silencieux dans une bourgade paisible, tranquille, éloignée du monde et possiblement encore régie par la loi. Donc la loi à comprendre dans deux sens, c'est-à-dire la loi humaine et la loi divine. Parce qu'ici, le monde humain, et plus précisément l'être humain, ne semble plus exister. S'il existe encore, il n'est plus qu'obscurité. qu'incarnation du mal, relativement cachée par une couche de lumière artificiellement créée pour et par ces mêmes ténèbres. Mais on ne peut pas dire du film que c'est un film, tu vois, nihiliste ou même crépusculaire. Parce que, comme à la fin de Prisoners, il y a encore un espoir qui est possible, il y a une vraie lumière qui semble encore pouvoir exister malgré le mal environnant. Donc les derniers plans, bon là désolé mais je le dis, les derniers plans du film nous montrent des enfants jouer au football, notamment donc le fils du policier corrompu du film. Ils sont encouragés par leur famille et d'un seul coup ils sont tout est stoppé parce qu'ils sont interloqués par des sons de tir qui sont dans la ville juste à côté d'eux, parce que c'est un truc quotidien qu'ils vivent au quotidien. Puis le son s'arrête, ils reprennent leurs activités comme si le bien et l'humain ne céderont jamais à la peur, à ses agents et à son concept maître, le mal. Et je vous laisse avec la musique The Border, donc la composition de Johansson du film.
Voilà. Tout à fait.
Vous écoutez bien les décadrés sur PFM 99.9, on est chaud, on est en forme, on est à donf. Comment vous allez les gars?
Bah ta musique, elle m'a... Va. Putain, elle m'a tué le moral.
Ça va, ça va. Je voulais rajouter que donc, le prochain film de Denis Villeneuve, qu'est-ce que ce sera?
Eh ben je ne sais pas.
Ce sera la suite de Blade Runner.
Ah
oh. Eh oui, alors bah qu'est-ce qu'il en sera pour le Blade Runner? D'ailleurs, il y a Ridley Scott qui a dit qu'il garderait le directeur Scott là-dessus en tant que producteur.
c'est encore Harrison Ford?
Il serait dedans, mais plus vers la fin du film. Il y aurait Ryan Gosling en tant que Blade Runner, je crois.
Ah, c'est ouais, cool. Il va refaire une apparition comme dans Star Wars 7, en fait.
Non, ce serait plus... Ils auraient écrit un scénario de l'ordre du troisième homme où le gars, il serait à la fin, il serait là à la fin.
D'accord.
Voilà.
Bah, ça me semble plutôt intéressant.
Oui, donc on est... On est bon bah à la fin de l'émission,
ouais, la fin de notre
ça nous déprime.
Et on est triste, mais c'est comme ça. Et du coup,
à bientôt.
On vous dit un gros au revoir.
Au revoir.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook et sur Mixcloud. Aussi.
Mixcloud, oui. Toutes les émissions sont dessus pour ceux qui ratent l'émission sur PFM.
Exactement.
1, 2, 1, 2, 3. Au revoir.
peux-tu me faire une voix plus
claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un
intro
dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je te laisserai mon test.
Salut!
C'est cool, ça va arriver les voisins.